BFM Business présente le premier concours de créateurs d'entreprises. BFM Academy saison 11 avec Nicolas Dose.
BFM Academy, la suite, c'est la cinquième émission de cette saison. Alors vous connaissez Tilki, le logiciel tracker pour les commerciaux. Vous connaissez Medavise, le téléconseil médical par internet ou par téléphone. Vous connaissez désormais également Julidesk, l'intelligence artificielle qui gère votre agenda. Vous connaissez Loisirenchères, le e-commerce des vacances aux enchères. Bah, il en manque un pour continuer cette saison. Il manque un entrepreneur qui va refermer cette belle famille de cinq qui nous conduira dans une semaine à la demi-finale. Et cet entrepreneur qui manque, eh ben, on va le décider ensemble aujourd'hui. Voilà, on a à nouveau deux entrepreneurs à vous présenter. Et c'est Ève Chégaret. Bonjour Ève.
Bonjour Nicolas.
Qui va devoir trancher en fin d'émission.
Ben oui, vous dites décider ensemble,
ouais.
Mais là, j'ai
non,
la pression.
En fait, oui,
là.
C'est vrai. C'est vrai que la réalité, c'est que c'est Ève qui va trancher.
Ouais.
Parce que chaque membre de l'équipe de la BFM Academy, chacun son tour, a dû arbitrer.
Lourde tâche.
A dû arbitrer un match. Donc, on a invité un guest.
J'ai mon
un
invité.
Coach. Un coach exceptionnel, David Amselem, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Alors, si vous ne connaissez pas David Amselem, c'est que vous n'êtes pas les fidèles de la BFM Academy.
Je rappelle en deux secondes.
Ouais, en deux secondes.
Eh ben, David est à la tête de John Paul. Il va évidemment nous expliquer son métier. On est dans le service. John Paul était candidat de la BFM Academy, je crois, en 2008. Donc, ça ne nous rajeunit pas. Un parcours brillant. Et surtout, c'est juste devenu le premier groupe mondial de son secteur. Donc, on est un peu fiers de vous avoir sur le plateau.
Une histoire. Incroyable. Regardez en image l'histoire de John Paul et puis après je vous en dirai plus sur Ève.
David Amselem est à la tête d'un leader mondial, John Paul, devenu en 8 ans le numéro 1 de la conciergerie privée.
S'il y avait une qualité pour être patron et un patron d'envergure, je pense que c'est la vision. Être capable de voir plus loin que les autres et voir en avance. Et c'est la valeur commune que je retrouve chez tous les entrepreneurs que j'admire, que ce soit les entrepreneurs à succès ou les entrepreneurs qui ont connu l'échec et qui se sont relevés et qui ont connu un succès par la suite.
Au début de l'année, John Paul a racheté l'américain Les Concierges. 1000 employés, 70 millions de dollars de chiffre d'affaires et plus d'un million de requêtes traitées par an. Que de chemin parcouru pour cet ancien finaliste de la BFM Academy, c'était en 2008.
Ce que ça m'a apporté, c'est d'abord une première exposition médiatique. Et cette exposition médiatique, à l'époque, on a su la transformer. Et on a su l'utiliser pour aller voir nos clients, les convaincre de notre potentiel et aller voir des prospects et les convaincre de la pertinence d'écouter nos recommandations. Ça a été un booster commercial. Si j'avais un conseil à donner aux finalistes de la BFM Academy, en plus de la vision, il faut de la conviction pour persévérer, parce que persévérance est mère de réussite.
Belle histoire quand même, David Amselem. Mais c'est vrai qu'on peut être un peu fier quand même d'avoir vu passer dans cette émission des boîtes qui aujourd'hui ont un rayonnement.
Et puis Drivey, et puis chauffeur privé.
Bon, Ève Chégaret, c'est elle qui va arbitrer aujourd'hui. Donc comme le veut la tradition dans chacune des émissions, il y a un petit portrait de celui qui va être... en charge de prendre ce terrible choix en fin d'émission. On regarde le portrait de Ève Chégaret, on va enfin tout savoir sur elle.
C'est le moment bizarre.
Oui, c'est ça.
Ève Chégaret, sa spécialité, la communication.
Ce que je leur apporte aux start-upers dans la BFM Academy, c'est mon œil de coach en communication.
Ève, elle prend de la hauteur et elle pose un regard perçant sur les candidats. C'est un aigle.
Je suis curieuse, têtue et libre. Ève, elle est exigeante, elle est pertinente et ultra glamour.
Ève, c'est notre maman à tous, elle va me haïr. Et pourtant, c'est un peu ça, dans la BFM Academy, c'est elle qui nous coach véritablement.
Mon point fort, c'est que j'adore soutenir les gens qui ont la petite étincelle, le truc qui vibre. Donc là, j'ai vraiment les aider au maximum.
Ce qu'elle ne supporte absolument pas, c'est quand elle ressent qu'il y a une très grosse lacune en termes de management et de partage de bénéfices dans l'entreprise.
Elle a un petit côté peau de vache que les candidats ne voient pas, mais que nous, coachs, on voit bien.
Mon côté sombre, et ils ne le savent peut-être pas, c'est qu'à un moment donné, quand je suis déçue, il n'y a plus grand-chose à faire, quoi. Donc, il ne faut pas me décevoir.
Voilà, Ève Chégaret qui est quand même à mes côtés dans cette émission depuis la première émission,
mais
il y a
oui,
maintenant 10 ans.
Shabadabada.
Et puis qui a quand même managé l'ensemble des castings qui nous ont conduits à avoir ces 10 entrepreneurs que l'on départage toutes les semaines.
Pour bon garde. Casting hein,
il est
cette
bon,
année.
Il est super bon. Et on n'en gardera que 5, bien sûr. Le cinquième, on va le connaître aujourd'hui. Il s'agira soit de Ronald Gautruche avec Digifood. Bonjour,
bonjour
Ronald.
Bonjour.
Et à vos côtés, Alexandre Poisson avec Pop Valley.
Bonjour,
bonjour Alexandre. Alors on va commencer avec vous, Ronald Gautruche, Digifood. On va regarder un sujet sur Digifood et vous allez me raconter véritablement comment ça se passe dans la vraie vie. À tout de suite.
L'aventure Digifood a démarré dans un stade de foot.
J'étais à une rencontre sportive ici à Paris, donc pas très loin au Parc des Princes. Je me retrouve à la mi-temps, j'ai faim, je vais à la buvette et là une file d'attente interminable. Et à ce moment-là, je me suis dit, comment est-ce que moi, à ma place, je peux pas un petit peu comme mes amis dans leur salon, bah me faire livrer directement à ma place, sans faire la queue évidemment.
Ronald Gautruche décide donc de créer Digifood, la première plateforme qui livre ses utilisateurs dans les lieux de forte affluence, le tout en un clic ou presque.
L'utilisateur va d'abord sélectionner son événement, puis rentrer sa place. Ensuite, il arrive sur le catalogue de produits avec les stocks correspondants à un moment donné. Il va choisir donc ses produits, sélectionner son mode de récupération. Ça va être soit pick-up, c'est-à-dire un retrait en buvette sans avoir faim la queue, soit une livraison à la place. Et ensuite, il va choisir le moment. Ça peut être le plus vite possible, c'est-à-dire c'est à peu près 5 minutes, ou une horaire fixe. Et ensuite, il va juste simplement payer par carte bancaire.
Digifood revendique aujourd'hui 12 000 inscrits et une quinzaine de partenaires, surtout dans le foot, basket et rugby. Prochaine étape, une levée de fonds.
On cherche à lever 500 000 euros pour agrandir notre équipe et passer de 4 à 8 personnes, pour également ouvrir un nouveau bureau en septembre à Barcelone, et enfin pour accroître notre marque, notre visibilité, via la publicité.
En attendant, Digifood vise les 200 000 euros de chiffre d'affaires cette année.
Voilà un sujet réalisé par Delphine Liu et Pierre Gélin. Il dit tout le sujet. Ça marche vraiment comme ça. Je suis à ma place, je prends mon smartphone, j'ai la carte de la buvette d'à côté, je commande, je paye en ligne et je suis livré.
C'est exactement ça, en moins de 5 minutes.
En moins de 5 minutes.
Ouais, exactement.
Et là, vous avez lancé l'offre il y a combien de temps ?
Alors en fait, les années sportives commencent en août et finissent en juin.
D'accord.
On l'a lancé donc en août 2015.
Et ça prend là, le marché prend ?
Ça prend, on a des partenaires depuis le début de la saison avec qui ça fait presque un an qu'on travaille. Ça se passe très très bien, on est ravis et ils sont aussi ravis. Et quelques-uns qui sont lancés depuis quelques semaines, voire quelques mois.
D'accord, donc vous avez évangélisé en très peu de temps cet univers qui n'avait jamais vu ce type de service se mettre en place. Et effectivement, on a tous déjà passé 20 minutes à essayer d'avoir une boisson dans une buvette, dans un stade, et devoir renoncer parce que le truc va reprendre et que finalement, on n'a pas eu le temps.
Exactement ça.
Bon,
quel est l'argument, quel est l'argument qui convainc vos clients, qui les a convaincus rétrospectivement?
Alors, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin de la part des restaurateurs en termes d'innovation. Pourquoi? Parce qu'il y a un vrai manque à gagner aujourd'hui dans les enceintes sportives et il y a un coût des employés qui est beaucoup trop élevé. Vous allez prendre un certain nombre d'intérimaires pendant une longue période, c'est à peu près 5 heures de temps, ils vont vraiment être productifs pendant 3 quarts d'heure. Nous, on leur permet d'élargir le temps de vente et donc d'utiliser ce potentiel d'intérimaire pendant toute la durée de l'événement.
On les optimise.
C'est la question que je me posais parce que je me disais, il faut des gens pour livrer s'il y a des commandes à la place. Et généralement, les gars qui sont derrière le comptoir à sandwich ou la buvette, ils sont 2 ou 3. On va pas pouvoir couvrir l'intégralité d'un stade ou d'un demi-stade avec 2 ou 3 personnes, ou ça va être compliqué s'il y a énormément de demandes.
C'est un petit stade s'il n'y en a que 2 ou 3. Mais en l'occurrence, un stade moyen à peu près 6 ou 7 buvettes pour à peu près 10 000 spectateurs. Et 5 ou 6 personnes par buvette. Et en fait, les buvettiers, comme vous les connaissez, vont vraiment travailler en avant-match, c'est-à-dire quand les spectateurs arrivent dans le stade, ou à la mi-temps. Et c'est vraiment à la mi-temps où on connaît tous le rush, les files d'attente interminables, le stress parce qu'on veut pas rater match, etc. Et en fait, le reste du temps, ils ne travaillent pas beaucoup. Voilà, ils attendent en fait les rushs.
D'accord. Il y a des retours clients, les gens qui commandent et qui effectivement se font livrer leur sandwich et leur coca, on va dire.
Ouais, alors on a plusieurs témoignages qui sont vraiment super adorables et super sympas pour nous. Ensuite, on se rend compte, c'est surtout avec la rétention, enfin on mesure par rapport à la rétention du retour de nos clients. En moyenne, on a 1,3 commandes par utilisateur et par événement. Donc c'est-à-dire qu'il y a de la rétention au sein même d'un événement. C'est très rare d'aller 2 fois à la buvette pendant le même match.
Ah oui, ouais, c'est rarissime.
Ouais, c'est assez rare. Mais par contre, sur l'application, on va avoir tendance à consommer peut-être en avant-match une boisson, et puis en première mi-temps un sandwich, et puis pourquoi pas un dessert en seconde mi-temps.
Donc c'est match, salle de concert également.
Alors en fait, on s'est rendu compte, ça c'est un autre.
Parce que les lieux à forte affluence, moi je vais vous en citer plein d'autres.
Il y en a plein d'autres.
Qui sont pas dans la liste que je viens de donner, qui comportent 2 éléments.
Exactement. En fait, on a commencé dans le sport, de par notre cursus d'étudiant.
D'accord.
Et puis c'est un petit peu notre marché, voilà. On adore le sport, etc. Chacun des associés adore le sport.
J'ai un fan de foot à côté de moi.
Ça tombe bien. Et après, on s'est rendu compte que de par notre algorithme et par notre solution et notre back-office, on pouvait répondre aux besoins des enceintes sportives, mais également des salles de concert, c'est exactement la même chose, des festivals de musique, des parcs d'exposition, il y a des vrais besoins, enfin il y a des vraies files d'attente dans les parcs d'exposition, la foire automobile, enfin le salon de l'auto ou la foire de Paris,
c'est inimaginable. Les trains.
Pourquoi pas aussi les trains, les gares, les aéroports, enfin, et même les universités.
Qui sont vos clients exactement? Parce que j'imagine qu'il y a plusieurs contreparties, c'est un contrat tripartite quand on rentre dans un stade?
Alors ça dépend. Souvent, dans la plupart des cas, on va dire 70% des cas, le club va gérer en autonomie la restauration. Donc c'est-à-dire qu'on a fait une relation bipartite. Et dans certains cas, dans les très grands stades, comme vous pouvez les connaître sûrement, il y a un restaurateur qui vient, et donc c'est une relation tripartite exactement entre le club, le restaurateur et nous-mêmes.
Bon, on va faire la connaissance d'Alexandre Poisson qui est à côté de vous aujourd'hui. Ronald, il est venu nous présenter Pop Valley. On regarde Pop Valley en image, puis on va aussi voir un petit peu comment ça fonctionne derrière.
Depuis qu'elle a rencontré Pop Valette, la vie de Anne a changé. Avant d'arriver à son bureau en voiture, elle commande son voiturier depuis l'application.
Quand j'arrive, je lui donne mes clés, il prend ma voiture qu'il va garer dans un parking sécurisé. Et c'est exactement la même chose au retour du bureau. Dès que j'ai besoin de partir, j'appelle le valet via l'application Pop Valet. Et quand je descends, ma voiture est là, je reprends mes clés et je peux repartir tranquillement. C'est beaucoup moins cher que le parking. C'est un gain de temps énorme aussi parce que ça m'évite, en arrivant à travailler, d'avoir à tourner pour trouver une place. Les valets sont tous hyper sympas et adorables. J'utilise ce service depuis novembre et j'en suis vraiment fan et c'est top.
Anne est l'un des 2000 clients de Pop Valette. C'est Alexandre Poisson, associé à un ancien camarade de promo, qui a lancé cette application il y a un an.
Ce qui différencie Pop Valette de la concurrence, déjà, c'est qu'on a une expérience dans le stationnement. Ça fait 3 ans qu'on gère des places de parking et donc on a un réseau de plusieurs milliers de places de parking dans Paris, ce qui nous permet d'être ultra compétitifs en termes de tarifs. On est 30% moins cher que notre concurrent, par exemple, et en plus de ça, on est présent sur tous les téléphones, aussi bien Apple qu'Android.
Pop Valette couvre aujourd'hui 5 arrondissements parisiens, mais ses fondateurs ne comptent pas s'arrêter là.
On a aussi des projets de développement nationaux, puisque d'autres villes nous intéressent, notamment la région Rhône-Alpes ou le sud de la France, et également l'international, avec des pays comme la Belgique, la Suisse, l'Allemagne ou la Grande-Bretagne.
En attendant, Pop Valette vise 1 million de chiffre d'affaires cette année et 10 millions à l'horizon 2018.
Voilà, le voiturier à l'appli pour avoir son service de voiturier à la demande. C'est
exactement
bien ça. Il arrive en jaune avec sa trottinette, il met la trottinette dans le coffre, il va garer ma bagnole.
Exactement, c'est tout à fait ça. Il se déplace en trottinette, pourquoi ? Pour aller plus vite jusqu'au client. Et c'est comme ça qu'en moyenne, on observe un temps de prise en charge de 5 minutes 30 pour nos clients.
Mais il faut une masse salariale colossale. C'est parce que là, ça ressemble à un truc qui est globalement pour le triangle d'or de Paris, 8e arrondissement, où globalement il y a des CSP++ qui veulent pas s'ennuyer avec leur voiture. Est-ce que ça peut se généraliser quand même ? Si on généralise, il faut une masse salariale de malade pour réussir à gérer un service pareil.
Alors, il faut une masse salariale, certes. Par contre, ce n'est pas uniquement pour des CSP+. Pourquoi ? On a une solution aujourd'hui qui est moitié moins chère que les parkings publics. En moyenne, un parking public pour une journée va facturer 40€ la journée, quand Pop Valette facture 20€ la journée.
C'est 20€ la journée maximum. Voilà.
Exactement, maximum. Et on a une tarification qui est de 5€ la prise en charge, plus 3€ de l'heure facturée à la minute. Donc ce n'est pas réservé aux CSP+.
D'accord, c'est pas un truc de riche.
Ce n'est pas un truc de riche, exactement.
Ça fait un peu, Happy Few quand même.
Ça peut faire Happy Few.
Ouais. Laisser la mousse du couche pour tout à l'heure.
Ok. Non, mais c'est vrai, je me fais toujours accuser d'empiéter un petit peu sur le... Donc, racontez-moi comment ça fonctionne si je veux faire appel à votre service. Mon appli, elle est téléchargée. C'est finalement comme Digifood, c'est pareil.
Alors, c'est un peu le même principe. On télécharge une application sur un store, donc Play Store
ou App
Store, exactement. Okay. On s'inscrit. Et une fois qu'on est inscrit, en 2 clics, on commande son voiturier n'importe où dans la zone de couverture dans Paris. C'est-à-dire que vous déplacez votre curseur ou vous l'entrez manuellement, vous cliquez sur « Demander mon valet », confirmez, et là, en 5 à 6 minutes, un de nos voituriers, donc formé et brandé, se rend à vous, prend charge votre véhicule, va le garer dans un parking couvert et sécurisé, partenaire de notre service. Et pour la restitution, c'est exactement le même procédé qui opère, puisqu'en 10 à 15 minutes maximum,
d'accord,
on vous ramène votre véhicule.
15 minutes maximum, il n'y a pas le rush du déjeuner où tout le monde veut sa bagnole au même moment vers 15h et puis c'est pas possible.
Alors ça, c'est ça, nous organiser justement en amont pour ça.
Et en fait, visiblement, si vous avez réussi à rendre cette offre opérationnelle, c'est notamment grâce à la première activité qui a été évoquée dans le sujet.
Qu'est-ce
le fait
s'est
d'avoir
passé avant
d'avoir créé Parkadom, donc d'avoir déjà un réseau de parking qui vous permettait d'aller mettre les voitures dans des lieux sécurisés, comme vous dites.
Exactement. Donc en fait, on a créé une première start-up du nom de Parkadom, qui a à peu près 4 ans maintenant, dont la spécialité est la gestion et la location de places de parking. Donc aujourd'hui, on permet à un locataire individuel de mettre en location sa place de parking. Vous, par exemple, Eve, et David, qui vous louent votre place de parking directement.
On a c'est cette du Airbnb de la place de parking.
On va faire ça, David, bientôt, d'accord.
Voilà, vous allez vous auto-louer vos places de parking, ça va être super sympa.
On a cette activité-là. Et on a aussi l'activité pro, entre guillemets, où on loue des places de parking pour des institutionnels, notamment le Crédit Agricole. Et là, ce sont des lots de places de parking qu'on utilise justement pour garer les véhicules des clients de Pop Valette.
D'accord. Ce qui m'a frappé quand j'ai regardé votre candidature, c'est que vous dites que parmi les clients, il y a les femmes, parce qu'elles ont peur des parkings souterrains.
Exactement.
Ça sent un peu l'insécurité. Elles préfèrent faire appel à...
faibles femmes, on flippe.
Vous flippez, Eve, dans les parkings souterrains?
Non, je flippe jamais, moi.
Bon. Et même ça, effectivement, peur. C'est un phénomène que j'aurais pas imaginé, parce que peut-être que je suis pas une femme. Mais...
Oui, tout à fait. Les femmes ont peur d'aller en sous-sol, surtout quand la nuit tombe. Et c'est vrai que ce type de service leur permet d'éviter de se rendre en souterrain, et elles sont très très friandes de notre service.
Bon, on va en rester là pour l'instant. Je vais donner la parole à nos deux amis, Eve Chigaret et David Amselem. Ils attendent 1 million d'euros de chiffre d'affaires cette année tout de même, dont 700 000 euros uniquement pour l'activité Pop Valley. Après, évidemment, il y a l'activité Parcadome qu'on a évoquée. On va aller plus loin tout de suite avec Eve Chigaret et David Amselem.
BFM Academy, saison 11, ils y croient. Mais croirez-vous en eux?
On retourne chez Digifood avec Ronald Gautruche. L'application pour se restaurer depuis sa place pendant un match ou pendant un concert, donc tous ces lieux à très forte affluence, avec des moments clés stratégiques où finalement il y a des files d'attente absolument monumentales et tout le monde s'énerve. Cette application visiblement révolutionnaire a apporté des solutions à la fois pour ceux qui vendent de la restauration, qui augmentent leurs recettes, et à la fois pour le confort et la sérénité des clients. Alors allez-y, Eve Chigaret, David Amselem.
Moi, je reviens un petit peu en arrière au début de l'entreprise. Donc, on a compris que vous, Ronald, et vos associés, vous aviez un master de management du sport, je crois. Donc, vous êtes plutôt bien calé sur le monde du sport. Comment vous vous êtes lancé? Parce que là, il s'agissait de développer une appli. Donc, c'est pas un métier du sport. Qu'est-ce qui a fait que vous avez pu aller dans ces métiers-là?
Alors, j'ai d'abord fait un peu de R&D, donc avec un de mes associés. Et puis ensuite, on a dû forcément développer l'application, évidemment. Donc, on a pris un CTO, qui s'appelle Benjamin, qui a développé l'application. Et on a eu en mars 2015, en fait, la première version de l'application qu'on a testée sous forme de POC, donc Proof of Concept, entre mars et mai 2015, où en fait, on avait pris notre voiture, on s'était baladé un peu à travers la France, voir tous les clubs de basket, parce que c'était plus petit que les stades de sport, enfin de football.
Plus accessible.
Beaucoup plus accessible. Et voilà, on toquait à la porte, on disait, voilà, on voudrait mettre une solution en place gratuitement, est-ce que vous voulez bien essayer pour un match? Puis en fait, le match, ça se passait bien, donc 2 matchs, 3 matchs jusqu'à la fin de la saison. C'est comme ça que tout a commencé vraiment.
Alors justement, gratuitement, mais combien ça coûte? Quel est le modèle? Et comment ça tient dans le temps?
Alors, très bonne question. Aujourd'hui, par rapport à l'utilisateur, c'est absolument gratuit. C'est $1. C'est-à-dire que l'application iOS ou Android est gratuite.
Même si je me fais livrer à ma place?
Même si vous faites livrer à la place, dans la plupart des cas, il y a peut-être un ou deux partenaires qui peut décider, donc c'est le club ou le restaurateur, de faire payer un supplément de 50 centimes ou 1 euro la livraison à la place. Mais sinon, de manière assez basique et assez normale, c'est gratuit pour l'utilisateur. C'est juste le restaurateur ou le club qui va réduire ses marges par rapport à nous, qui allons prendre une simple commission, qui est de l'ordre à 15 à 20%. Selon les spécificités et les besoins de chacun des partenaires.
Donc c'est de la vente à emporter?
C'est de la vente à emporter.
Oui, parce que la question que je me posais, c'est que ça fait quand même de très petites sommes, quoi. À chaque fois, il faut vendre des millions de hot dogs pour que Digifood explose, quoi.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le panier moyen dans un stade, il est autour de 4 euros ou 5 euros. Sur l'application même, on est à plus de 20 euros. Donc c'est-à-dire que c'est plus un si petit montant que ça.
Donc ça booste le panier moyen?
Complètement, on a fait x4 ou 5, ça dépend.
Le fait d'être sur l'application fait qu'on consomme plus?
Complètement.
Ah oui, plus souvent. Oui, on va peut-être répéter le...
Mais même
c'est le marketing aussi dans l'application qui permet de voir plus d'offres.
Exactement. Il suffit de se souvenir un petit peu de l'expérience quand on va dans une buvette. Il y a souvent beaucoup de monde. Donc on est un peu dépassé, on n'a pas forcément accès à la carte. J'arrive devant le buvetier. Allez, j'ai soif, je prends une bouteille d'eau et un coca. Voilà.
Ouais.
Et je vais pas penser à mes amis qui attendent à la place. J'ai pas de quoi prendre 50 hot dogs dans les mains, etc. C'est super compliqué. Et puis le match reprend, on va rater le but de Zlatan s'il le faut ou pas. Voilà, c'est assez compliqué. Et au final, sur l'application, vous pouvez rester une demi-heure devant l'écran. Je choisis qu'est-ce que je vais boire, un dessert, etc. Et c'est comme ça.
Est-ce qu'on pourrait acheter des casquettes et des t-shirts aussi du club?
Pardon?
Est-ce qu'on pourrait acheter des casquettes et des t-shirts du club?
Alors, complètement, c'est dans notre stratégie aujourd'hui. La restauration, c'est très bien, on est très contents. Mais on voudrait aussi proposer, pourquoi pas, des produits de merchandising et de marketing, donc les maillots, les casquettes, tous les produits dérivés du club, effectivement.
Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui vos clients, vos partenaires de faire la même chose eux-mêmes? Alors, qu'est-ce qui empêche un stade de dire j'ai de la sécurité, j'ai du personnel et puis je vais l'utiliser, je vais l'exploiter?
Alors on leur a posé la question.
Surtout qu'il y a des stades qui deviennent des stades connectés, donc qui en plus sont hyper bien équipés en termes de couverture des telcos et autres.
Alors faut savoir que le stade de Lyon a développé sa propre application. Mais on a posé la question à d'autres clubs. En fait, d'une part, c'est pas leur métier. C'est souvent des PME, c'est pas des grandes sociétés. C'est pas parce que c'est un grand club que c'est une grande entreprise. Ils ont pas forcément les moyens parce que ça coûte beaucoup d'argent. Et voilà, c'est pas leur métier, c'est passé par des agences, c'est du temps. alors que nous on est là. En fait, c'est pas forcément inquiétant pour nous parce qu'on veut vraiment s'inscrire comme un pure player. On veut pas avoir un partenaire, on veut s'inscrire comme pour un utilisateur, on va pouvoir aller voir son match de foot, voir sa salle de concert, voir son festival, ou même aller à son université. On veut vraiment s'inscrire comme un pure player, donc qui n'en est pas un, c'est pas très grave, mais on veut vraiment représenter la plateforme pour la restauration rapide dans les lieux à forte influence.
Bon, ceci dit, si ça marche, c'est normal que vous ayez un petit peu de concurrence.
Bien sûr.
Et que, voilà,
ça veut dire que le stade de Lyon, il vous échappe déjà. Ça, vous savez que vous l'aurez jamais celui-là.
Alors, on l'a, voilà, on l'a pas encore.
Ah, pas encore.
Ah, ils sont tenaces, c'est ça qui est bien.
Ouais.
Alors, et l'UEFA, vous les avez approchés par exemple ?
Voilà, non, la vraie question.
On ne peut pas, malheureusement, c'est confidentiel, mais complètement, l'UEFA ou même, vous savez, là, en France, dans les 5 prochaines années, il y a plein d'événements sportifs, donc que ce soit mondiaux ou pas, que ce soit les championnats du monde de handball, de hockey sur glace, il y a les Gay Games en 2019 ou même les championnats du monde de football féminin. Ce sont des objectifs complets pour nous, on ne va pas se le cacher. On souhaiterait participer à tous ces événements et donc on fait tout pour.
Donc David, on remarque, Ronald nous a répondu, c'est confidentiel.
Voilà, c'est confidentiel. L'UEFA on va pouvoir profiter de Digifood, c'est super. Moi, je vais plus aller voir un match sans avoir accès à Digifood. Et c'est un métier qui subérise, non ? Vous voyez ça comment ? Si demain j'avais une plateforme qui disait n'importe qui dans le stade peut se faire un euro en amenant des canettes de coca, comment vous abordez cette question? Je sais qu'en général on pose cette question à des mastodontes, mais aujourd'hui
déjà,
on la pose aussi, aux nouveaux entrants.
Ça nous va. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu particulier. Même nous, on avait pensé à prendre du personnel, un petit peu quelqu'un qui voudrait travailler dans un stade pour pouvoir livrer. Le problème, c'est que dans un stade, pour entrer, il faut un ticket, il faut un billet ou une accréditation pour travailler dans un stade. Donc le seul cas possible, c'est si un consommateur final décide d'aller livrer pour un autre consommateur. Le problème, c'est que le consommateur, il vient pour regarder son match. Voilà, nous on le sait très bien.
Souvent,
même la plupart du temps. Il est pas là pour gagner un peu d'argent. Voilà, il est là, il a payé sa place assez cher, donc il veut regarder son événement. Et nous, c'est un petit peu aussi la qualité de notre service aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment pensé, on pense aux fans avant tout. C'est-à-dire que l'application, c'est pas une demi-heure sur l'application pour commander. C'est-à-dire qu'en moins de 4 clics, vous pouvez commander. Vous êtes inscrit, vous avez passé commande, vous avez choisi votre mode de livraison et vous payez simplement. Donc on pense vraiment aux consommateurs. Et aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait beaucoup de consommateurs qui veulent aller livrer des voisins un peu plus loin. Etc.
Oui, ça veut dire qu'en fait, ça ne peut fonctionner que dans des lieux où les places sont numérotées pour avoir une livraison à la place. Parce que vous êtes dans un salon de l'auto, vous êtes dans un festival où il y a tout le monde debout devant la scène. Alors, je voudrais mon hot dog. Je suis à 10 mètres du guitariste, un petit peu sur la droite, à côté de l'ange.
Effectivement, là, pour le coup, la livraison serait impossible.
Là, à ce moment-là, c'est le guichet ad hoc qui permet de retirer en mode prioritaire.
C'est le retrait, effectivement. D'accord. Et plus que ça, c'est-à-dire que vous prenez un concert où il peut y avoir une fosse et puis des places assises.
Oui.
C'est-à-dire que nous, en fait, selon la géographie, enfin l'endroit exact du consommateur, on va pouvoir lui proposer soit la livraison, s'il est en place assise, soit s'il avait noté qu'il était en fosse, on va lui proposer seulement le retrait express.
Et vous imaginez quand vous êtes à 5 mètres des zones qui permettent de monter et descendre, le gars qui vient avec son plateau là pour livrer, c'est pas commun déjà.
Alors, je suis pas à droit du tout, mais la plupart des livreurs sont très bons.
Ah, ils sont très bons.
Ouais, ils sont très forts.
Il n'y a pas beaucoup de place pour les genoux, faut passer.
Le challenge les rend efficaces.
Concernant, simplement, je rebondis, le passage dans les travées, c'est pas le cas en fait. Ce qu'on fournit à chacun de nos partenaires, c'est des sacs pour pouvoir livrer et te faire passer de main en main. Et c'est un point de communication.
Ils sont logotés, il y a Digifood sur les sacs.
Ouais, exactement.
Donc quand le sac se promène de main en main, ça fait de la pub finalement.
Mais ça fait plus que de la pub, c'est assez marrant et ça fait vraiment effet boule de neige.
Ça donne envie de commander. Ça sent bon les frites ou le hot dog.
Ça sent les frites, le hot dog et puis on voit la bière. Notre voisin va commencer à consommer et là vraiment c'est assez marrant parce que tout le monde le questionne.
Où est-ce que ça se fait dans le monde pour l'instant ?
Alors ça se fait aux États-Unis.
Ça se fait seulement aux États-Unis.
De basket, foot américain.
Ouais.
Pas vraiment encore soccer. Un peu de baseball aussi.
Il y a des players identifiés, il y a des grands noms.
Il y a des grands noms effectivement.
Il y a des volumes. C'est une habitude de consommation.
Ouais, alors c'est des startups qui ont levé plusieurs dizaines de millions de dollars.
Et en termes de volume, ça se mesure comment ? Parce que vous visez 1 million d'euros, c'est ça ?
De volume d'affaires en 2016, effectivement, mais 200 millions de commission. Alors ça se mesure. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les stades aux États-Unis sont souvent beaucoup plus grands. Et l'habitude de consommation même de voir le sport est différente. Un match de baseball en moyenne c'est 6 heures.
Ouais.
C'est-à-dire
entre et l'habitude d'alimentation c'est différente aussi. Hein.
Complètement.
Ouais. On va en rester là pour la première moitié de cette émission. On a quand même fait davantage connaissance avec Digifood, donc l'application pour se restaurer depuis sa place pendant un match, pendant un concert, bientôt pendant tous les lieux d'à forte affluence. 1 million d'euros de volume d'affaires attendu cette année pour 200 000 euros de chiffre d'affaires. On marque une pause et on retrouve dans un instant notre second candidat cette semaine, Pop Valley, incarné par Alexandre Poisson. À tout de suite.
BFM Academy, saison 11, le 20 juin. Il n'en restera qu'un. BFM Business présente le premier concours de créateurs d'entreprise. BFM Academy, saison 11, avec Nicolas Dose.
Et deux créateurs d'entreprises donc cette semaine. D'un côté, Ronald Gautruche qui nous a présenté Digifood, l'application qui permet de se faire servir à sa place pendant un match ou un concert, tout type de restauration, de boissons. Et face à lui, Alexandre Poisson pour Pop Valley. C'est le premier service de voiturier à la demande, la conciergerie automobile. Et d'ici moins d'une demi-heure, il n'en restera qu'un. Bon, on continue avec F.C. Garay, avec David Amselem, qui est notre guest coach guest du jour, qui est le président fondateur de John Paul, qui a participé à la BFM Academy, qui est allé très loin dans la compétition d'ailleurs en 2008, jusqu'à faire aujourd'hui de John Paul le leader mondial, on dit.
On est leader mondial.
De la conciergerie d'entreprise.
Non, de la conciergerie au sens large. De la fidélisation.
C'est la relation client.
J'ai gardé en tête le pitch historique de 2008, mais
ça
s'est complètement transformé. Donc voilà, vous êtes avec notre ami Alexandre Poisson qui nous parle de Pop Valley. Ce sont les voituriers à la demande qui arrivent à trottinette pour aller garer votre voiture. Vous les avez commandés par une simple pression sur une application. Ça coûte 5 euros la prise en charge, plus 3 euros par heure décomptée à la minute, et au maximum ce sera 20 euros pour la journée.
Oui, alors moi j'ai fait un petit calcul simple. Finalement, un déplacement, on est garé dans le parking de son entreprise, on va quelque part dans Paris ou bientôt Lyon ou que sais-je, et le temps d'un déjeuner, pas le temps de prendre un Vélib ou de louer quelque chose, peut-être pas encore de compte chauffeur privé, que sais-je, hop, on prend sa voiture et on utilise Pop Valley. C'est vrai que bon, j'ai l'appli, j'ai pas encore utilisé le service, je dois le reconnaître. J'ai fait un calcul, finalement le temps d'un déjeuner c'est 10 euros.
Exactement, le temps d'un déjeuner ça va être disons 2 heures, ce qui va faire à peu près 11 euros sur l'application.
Ah bah, c'est plus cher que le voiturier, c'est du resto qui prend 8 généralement.
Une dizaine d'euros le voiturier de restaurant, ça peut aller jusqu'à 15 euros quand même en fonction des restaurants.
Exactement.
Donc c'est compétitif par rapport au voiturier sur place.
Et puis une autre question, si on compare à deux courses en Uber ou en chauffeur privé, etc., on est plutôt à moins aussi. On a utilisé sa voiture.
Bien entendu, voilà. C'est vrai que quand on se déplace en Uber, il y a l'aller, mais il y a aussi le retour qui est à prendre en compte. Mais c'est vrai que Pop Valley, ça s'adresse aussi et surtout aux personnes qui se déplacent en voiture dans Paris. On peut utiliser le Uber quand on a son véhicule, mais là on s'adresse surtout aux personnes qui, il y a quand même 2,2 millions de véhicules qui transitent par Paris chaque jour, et on s'adresse vraiment à ces personnes-là, puisque forcément, à chaque fois qu'on déplace son véhicule, une problématique de stationnement est associée à ce déplacement.
Oui, parce que nous, quand on a entendu Valley, on a pensé restaurant. Mais j'imagine que votre marché est plus large.
Exactement.
Qui sont vos cibles ? Est-ce que c'est justement les gens qui vont au restaurant, ou est-ce qu'on est en train de parler d'une nouvelle habitude de consommation ?
On parle plutôt d'une nouvelle habitude de consommation. C'est-à-dire qu'on peut utiliser Pop Valley au restaurant si jamais il n'y a pas déjà un voiturier sur place. Si le restaurant dispose déjà d'un voiturier, je vous recommanderais d'utiliser ce voiturier. Là, l'idée, c'est que le voiturier n'est plus un point fixe. Le voiturier se déplace à vous. C'est-à-dire que partout dans la zone de couverture, donc dans tout Paris d'ici à peu près un an, vous pourrez utiliser n'importe où, à n'importe quelle adresse dans Paris, un voiturier qui se déplace jusqu'à vous prendre en charge votre véhicule. La force, c'est que vous arrêtez directement devant l'endroit devant lequel vous avez rendez-vous.
Moi, je pense avoir plutôt bien compris l'offre. Je trouve que c'est simple, et bien vous l'expliquez bien, mais ça j'en parlerai tout à l'heure. J'ai une question sur les forces vives de l'offre, les valets. Alors d'abord, on le sait peut-être, mais aux États-Unis, un valet, on sait que c'est un voiturier. En France, on a quand même fait tomber le roi il y a à peine plus de 200 ans. Je suis pas sûre qu'un valet, ça résonne de la même façon. Ma première question, là, vraiment sur les ressources humaines, c'est est-ce que c'est facile d'utiliser le mot valet pour votre métier ?
Alors, on a choisi un nom anglais. Pop Valley, un valet en ancien français, c'est aussi un voiturier, et c'est aussi le terme américain pour définir un voiturier. Mais par contre, sur notre baseline, on dit bien qu'on est le premier service de voiturier à la demande. Donc on utilise un peu les deux mots. L'idée, c'est qu'on essaye de mettre en avant le fait qu'on a plutôt des valets que des voituriers.
Vous êtes en train d'évangéliser, quoi.
Exactement.
Moi, j'avais le même problème avec le mot concierge, parce que concierge, c'est concierge d'immeuble, ça marchait pas. On a dû évangéliser, on a dû faire comprendre que c'est un service qui était accessible à tous. Et j'ai cette question pour vous, c'est quelle est votre stratégie pour démocratiser le valet ? Parce que c'est un nouvel usage. Aujourd'hui, on utilise le voiturier une fois par semaine quand on va au restaurant. Mais comment est-ce qu'on pousse cet usage, ce nouvel usage ?
Alors justement, ce nouvel usage, on a toute une activité en B2C, où là, n'importe qui télécharge directement l'application et peut utiliser le service. D'ailleurs, je vous encourage à le faire. On a également toute une offre B2B sur laquelle on est en train de faire une grande partie de notre chiffre d'affaires aujourd'hui, où on propose directement notre service à disposition des entreprises. Donc là, ces entreprises vont s'en servir directement pour leurs collaborateurs. Donc plutôt que de louer une place de parking ou de payer des frais de stationnement dans Paris, ils vont utiliser Pop Valet directement depuis l'appli. Et on a aussi des offres d'abonnement pour les entreprises qui reçoivent leurs clients directement à leur siège.
Mais alors, c'est-à-dire... Alexandre... Oui.
Pardon, mais concrètement, moi je suis, je reçois un de mes clients et je lui dis, vous n'avez pas besoin d'aller au parking. Vous arrivez devant la porte et il y a un valet qui vous attend et qui vous ramènera la voiture quand j'aurai décidé.
Exactement. Un peu comme BFM peut avoir un service de chauffeur pour faire venir ses invités, ça pourrait être la même chose avec le système de voiture. C'est-à-dire, je pense aux entreprises qui reçoivent des clients, donc même les professions libérales, les cabinets d'avocats, les experts comptables, les notaires, etc., qui reçoivent les coiffeurs. Ça peut s'adapter aussi aux restaurants.
Les coachs,
etc., etc. Toutes ces entreprises qui reçoivent des clients et plutôt que de faire commencer ces rendez-vous en retard, parce que souvent, combien de fois on a un client, combien de fois on a un client qui nous appelle pour nous dire j'arrive dans 15 minutes, je suis en train de chercher une place. Mais là, c'est un peu l'assurance d'avoir des rendez-vous.
C'est que les gens de bureau ou pas ça marche. Il y a des limites horaires parce que par exemple, un mec comme Dose qui voudrait faire garer sa bagnole par Pop Valet le soir et qui se lève à 4h du mat pour venir bosser, est-ce que j'ai un valet à jaune qui va se pointer avec ma voiture à 4h du matin?
Alors aujourd'hui, non. Le service Pop Valet est valable sur les horaires de bureau et en jour de semaine. Mais à très court terme, l'idée, ça va être d'ouvrir le week-end et d'élargir les horaires d'ouverture.
Okay. Non mais Alexandre, vous prenez une Colados comme client, vous lui faites juste payer le prix de 4 voituriers à la fois et ça marche très bien. Non, alors justement, alors les voituriers, parlons un peu de ces personnes qui sont essentielles à la réussite de Pop Valet. Comment les recrutez-vous? Comment les formez-vous? Et que font-ils s'ils ne sont pas occupés en B2B à aller accueillir les clients d'une entreprise?
Alors, donc nos valets sont recrutés...
Trois
questions d'un coup, on va essayer de les traiter une à une. Donc nos valets sont recrutés à l'issue d'un processus assez sélectif. On trie déjà des CV, on les voit, donc Jean-Guillaume qui s'occupe de la première partie chez nous, les voit tout seul en entretien, les qualifie, ensuite on les rencontre tous ensemble, la plupart du temps même avec un de nos anciens voituriers pour valet, pour pouvoir jauger un peu le feeling. Ensuite on a des tests de conduite, des tests de repérage dans Paris parce que c'est très très important, et si tout ça se fait, on recrute les valets pour l'instant en CDI et ils travaillent sur des horaires définis pour le service.
Pourquoi vous les recrutez en CDI ?
Pour l'instant on les recrute en CDI, en tout cas pour se lancer, parce qu'on a des horaires d'ouverture à tenir, c'est-à-dire qu'on a de la disponibilité à offrir, donc on a besoin d'une base de salariés à qui on peut dire tu travailles aujourd'hui de 8h à 16h, demain de midi à 20h, etc. À terme, on n'exclut évidemment pas d'uberiser un peu ce service-là et de travailler pour les heures de pic et pour renforcer les horaires déjà pris en charge, de travailler avec des auto-entrepreneurs voituriers.
Comment vous gérez la sécurité de la transaction? C'est-à-dire que moi, si je remets ma voiture à quelqu'un, vous prenez une responsabilité élevée. Comment ça marche? Comment est-ce que je suis sûr que c'est le bon valet et que c'est pas un mec qui va partir avec ma voiture? Comment est-ce que je suis sûr que ma voiture va revenir en bon état? Est-ce qu'il y a un check-in, check-out? Comment ça marche?
David tient à sa 4L.
Le mec qui débarque avec un gilet jaune, mais c'est un faux gilet jaune.
C'est un faux.
Voilà, ça pourrait être un faux gilet jaune. On aurait pu se faire voler un gilet. Bon, il y a déjà la tenue, forcément. Et ensuite, sur l'application, le client a la photo de son voiturier et son nom. Donc c'est la première des choses. Donc déjà il y a un contact visuel et en plus de ça, il y a un code de sécurité qui est généré automatiquement pour le client et pour le valet qui permet de faire la reconnaissance finale. Donc à ce jour, on n'a eu aucun souci, on est évidemment couvert également par des assurances le dommage, on touche du bois comme on dit, à ce jour, on n'en a pas eu, mais on est évidemment couvert pour cette éventualité. C'est-à-dire qu'on a une assurance dédiée qu'on a créée avec le premier assureur français pour assurer nos véhicules et nos voituriers.
Et qu'est-ce qui les motive, les voituriers, à venir travailler pour Pop Valet, donc à devenir valet?
Alors, ce qui les motive, la plupart de nos valets sont d'anciens voituriers. La plupart du temps, quand on est voiturier, c'est vrai qu'on travaille beaucoup pour des restaurants. Donc là, on vous demande d'être présent de midi à 15h, de faire une coupure et de revenir de 19h à 22h. Donc ça, c'est la première des choses. Nous, on peut proposer des horaires continus et surtout un CDI et un salaire fixe, ce qui les intéresse.
Bon, voilà. Bah, écoutez, on vous connaît mieux maintenant tous les deux. Donc on va passer à la deuxième partie de cette émission qui est un petit peu plus trash, un petit peu plus sauvage.
Ça se gâte.
C'est une séquence qui existe depuis le début, depuis plus de 10 ans. Ça s'appelle la mouche du coach.
BFM Academy, la mouche du coach.
Voilà, en gros, depuis un peu plus d'une demi-heure, vous nous avez dit qui vous étiez. On va maintenant vous dire ce que l'on pense de vous. Alors, on va commencer, je sais pas, Eve Chégaray.
Allez, je me lance.
David Abselem, qui commence?
Bon, je vais pas avoir besoin de...
Alors, on commence évidemment par Ronald Gautruche, oui, et Digifood. Hein.
J'allais dire, j'ai pas besoin d'en faire des tonnes. Je suis convaincue puisque je vous ai sélectionné au début dans le casting. J'adore les deux projets. Et d'ailleurs, c'est drôle, j'ai des remarques parfois communes.
Donc la pile de restauration dans les lieux à forte affluence.
Alors, je passe pas ma vie au stade, loin s'en faut, mais le peu de fois où j'y suis allée, c'est un truc que j'ai vécu. Voilà. Et quand on s'ennuie à regarder un match de foot ou quoi que ce soit d'autre, je suis en train de vous parler de la cible complètement annexe. Ben, on serait ravis de pouvoir s'occuper à faire autre chose, par exemple à servir de l'appli Digifood pour commander des boissons. Et aussi, tout le merchandising autour, je trouve que c'est une idée de déclinaison géniale. Des produits souvent avec des marges délirantes, donc tant mieux pour vous. Ça, je trouve ça génial. Je trouve que votre appli, elle est super bien conçue, que vous avez un marché énorme, que c'est plutôt simple à expliquer et que vous l'expliquez bien. Donc, je pense que c'est le truc qu'on attendait. Là où je vous entends un tout petit peu encore, c'est que je vous trouve courageux, Ronald. Vous avez fait un truc qui est plein de bon sens. Moi, j'adore entendre les startups raconter que, concrètement, ils ont pris leur offre et ils sont allés toquer aux portes pour rencontrer non pas des fichiers et des chiffres online, mais pour rencontrer de vrais clients potentiels. C'est ce que vous avez fait au début. Soit vous êtes très discret, soit le marché vous attend comme ça et est cuit. Dites-moi un peu plus ce que vous faites concrètement pour les convaincre. Ça a l'air presque trop facile. J'ai du mal à y croire.
Alors, il faut savoir que dans le marché du sport, les clubs sont assez réfractaires au changement et surtout aux nouvelles technologies.
Ben oui, ça a l'air résistant, ouais, comme
alors,
milieu.
On dirait pas comme ça, mais en fait, on a un super bon directeur commercial qui s'appelle Alexandre Armange.
Bravo.
Très fort. En fait, si vous voulez, le principal problème, c'est que déjà, il n'y a pas beaucoup de connexions dans les stades. Et donc, nous, on arrive avec une solution technologique qui demande du réseau. Et voilà, donc simplement ils nous répondent, c'est gentil, mais on n'a pas de réseau dans le stade, j'essaie à chaque fois d'envoyer un texto, ça marche pas. En fait, aujourd'hui, c'est un petit peu la première qualité de notre solution, et c'est la première barrière à l'entrée, c'est que technologiquement parlant, on arrive à la faire fonctionner même en edge. C'est-à-dire que nous, donc on est parisien.
C'est quoi en edge?
Ah bah c'est le minimum de réception.
Ouais, je pensais pas que c'était Nicolas Dose qui allait répondre.
Voilà, il y a la 4G, il y a la 3G, il y a edge. C'est-à-dire que nous, la plupart de nos tests, on les fait dans le métro parisien. C'est pour donner une image, dans le métro parisien.
Si ça marche dans le métro, ça marchera partout.
Voilà, exactement. Alors que des applications comme Facebook ou l'équipe, c'est absolument pas le cas.
Evelyn.
Voilà, ça c'est
donc,
la première chose.
Donc
on essaye de les convaincre. Et ensuite, je pense que le meilleur moyen de les convaincre, c'est surtout qu'on propose une solution, enfin, une période test. C'est une période non commissionnée. C'est-à-dire, si c'est un partenaire dans le sport, par exemple, on va proposer un ou deux matchs gratuits, non commissionnés. On va venir sur place, on va fournir les kakémonos, les flyers et tous les éléments de communication sur place. Et on va former les équipes sur place aussi. On sera présent, évidemment. Voilà, pour un ou deux matchs. Et en fait, on se rend compte que c'est assez intéressant pour eux parce qu'il n'y a absolument aucun investissement. Au pire, ils essayent, ils se rendent compte que ça ne marche pas, tant pis. Et si ça marche bien, tant mieux. Et au final, on se rend compte que jusqu'à aujourd'hui, à peu près, clairement, 100% de nos partenaires qui ont testé, qui ont approuvé.
100%.
David Abselem.
Oui. Comment on se fait connaître quand on est Digifood? Parce que moi, quand je vais au stade, mis à part si je passe les frites à mon voisin, comment est-ce que je vais connaître Digifood? Donc, comment est-ce que vous faites la promotion de l'usage, de ce nouvel usage? Deuxième question, j'ai compris que c'est un métier qui génère des flux extrêmement concentrés, à la mi-temps, c'est là où il y a une file. Comment ça marche, en fait? Comment on est capable de délivrer la promesse? Comment est-ce qu'on délivre 5 minutes à la mi-temps, qui est la période de pic? Point de vue ressources et opérations.
Alors, deux questions, deux réponses. Ouais. La première, par rapport aux éléments de communication. On va fournir à chacun de nos partenaires des kakémonos, donc qu'on va placer dans les buvettes.
Ça veut dire que si je ne vais pas à la buvette,
ça c'est la première solution. Merci. Après, on va fournir des flyers, qu'on va disposer sur chacune des places, ou une place sur deux. Ça aide un petit peu. En amont, sur les réseaux sociaux, on va demander à collaborer avec le partenaire, donc avec le club, de nous pousser un petit peu sur leur Facebook, Twitter, etc. On va également faire une part de newsletter. Donc, si vous êtes un abonné ou vous avez acheté un billet, vous allez recevoir un mail en vous proposant notre solution. Et sur place, il y a même l'annonce speaker. Donc, ça, c'est très sympa. Ça marche bien juste avant le début du match ou même à la mi-temps. Et c'est pareil sur les grands écrans. Vous savez, il y a des grands écrans dans chaque stade. Et on va passer, en fait, il y a un petit écran sur nous, sur Digifood et la solution Digifood.
Finalement, dans notre marque, est-ce que vous allez assez vite, quoi?
Ouais. Alors, aujourd'hui, pour un premier test, donc le premier match, en l'occurrence, on fait souvent à peu près 1% du nombre de spectateurs global. Après, à terme, après 6 mois, normalement, on passe à 3%. Ce qu'on souhaiterait pour l'année prochaine, c'est évidemment passer très rapidement à 5%, voire même aller beaucoup plus loin. Et avec le panier moyen qu'on a, ça risque d'être très sympa. par rapport à votre deuxième question, je reviens dessus. Alors, une première, par rapport aussi comment se fait connaître, et ça a fait un bon buzz, parce qu'il faut créer le buzz, on est une start-up, on veut créer le buzz. On a fait livrer nos menus par des joueurs, donc de l'équipe professionnelle du Stade Français en l'occurrence. Donc c'était, alors ils n'avaient pas les t-shirts et les casquettes de Digifoot qu'on fournit à chacun des employés, mais ils sont venus livrer, c'était assez agréable pour les consommateurs, parce que voir une star, enfin c'est assez agréable de se faire surtout livrer sa bière, ça, c'est sympa.
Bon, bref, il a réponse à tout, Ronald.
Voilà. Ouais. Et par rapport à la deuxième question, alors,
mais là il faut,
on n'a plus le temps.
Mais là on a fini. La deuxième question, c'était comment est-ce qu'on délivre au bon moment, au moment des pics. En fait, vous délivrez tout le temps, puisqu'il n'y a plus de pics.
En fait, il y a plus de pics. On change les habitudes de consommation, et à la mi-temps, on peut aussi, c'est souvent le cas, enlever la livraison. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir livrer pendant l'avant-match, la première mi-temps, la seconde mi-temps. Et à la mi-temps, on demande juste de venir retirer en buvette.
On passe à Pop Valley. On passe à Pop Valley avec Alexandre Poisson. Donc, c'est le service de voiturier à la demande. Pour l'instant, très présent dans quelques quartiers parisiens. J'appelle ça la conciergerie automobile parce qu'on peut, si on laisse sa voiture longtemps, se la faire nettoyer, voir avoir le plein d'essence, tout ça, tout ça. Bon, Mouche du coach, c'est FC Garret qui commence?
Oui. J'ai vécu avec Alexandre une expérience de synchronicité. C'était pas mystique, mais pas loin.
Je crains le pire.
Non, c'était très heureux. C'est comment
mon ton gilet.
Je te dirai qui tu es. C'est rouge Digifood et noir jaune Pop Valley. Au moment où on ouvrait les castings de la BFM Academy cette année, je passais à côté des locaux de Pop Valley et je vois un jeune homme en jaune, une casquette, une trottinette, écrit Pop Valley. Ça tape un truc reptilien dans mon cerveau. Et je comprends tout de suite, c'est vous dire, même moi. Non, je comprends tout de suite et je suis pile dans la cible pour la grosse bagnole, je sais pas, mais pour les mouvements dans Paris et ailleurs et le besoin. Et je me suis dit, mais c'est génial, un truc que j'adore aux États-Unis, c'est recourir au voiturier. Je le fais moins à Paris. Il y a un truc culturel, peut-être, on en parlait, on le fait au restaurant, on le fait moins ailleurs. Et c'est quelque chose qui simplifie la vie. Et je trouve aussi que ce qui est génial, c'est que ça fait des emplois. Peut-être qu'il y aura beaucoup de turnover, vous devez déjà en faire l'expérience. C'est peut-être des jobs entre d'autres gens. Pas tant que ça. Comme quoi, c'est intéressant. Et alors, ça fait peut-être vieillot de dire ça, mais je pense qu'on a besoin de petits jobs aussi dans nos villes, dans nos villes, etc.
Créer des jobs de service quand d'autres auront disparu pour longtemps, oui.
On a besoin de service. Je trouve que c'est impeccable. Vous avez là aussi, comme Ronald, réponse à tout. On sent que le service se peaufine en vivant chaque expérience, chaque ouverture, chaque déploiement. J'ai un peu une remarque aussi sur allez-vous assez vite et est-ce que vous n'êtes pas clusterisé ou ghettoisé dans ce côté CSP++, vous voyez, c'est un peu va falloir quand même beaucoup évangéliser.
Alors il va falloir en effet évangéliser et c'est tout notre travail. Encore une fois, je le dis et je le répète, ce n'est pas pour du CSP+, ça s'adresse vraiment à toute personne.
Arrêtez F de raconter ça.
C'est l'image qu'on a.
Regarde le début d'Uber.
C'est pour mieux vous donner le
Uber, c'était pour les CSP+, de prendre un véhicule avec chauffeur et puis aujourd'hui on le prend tous parce que c'est moins cher et que ça marche.
Exactement. Et surtout, là, on a directement une proposition de valeur par rapport à ce qui existe déjà dans le centre de Paris. C'est plus de 4 euros de l'heure pour vous garer. Le parking, il est minimum à 4,40 de l'heure, 40 euros la journée. Là, on propose directement quelque chose qui est compétitif par rapport à ces prix-là. Donc, ça s'adresse vraiment à toute personne qui a besoin de stationner dans Paris.
Mais comment on crée l'usage sans dépenser 100 millions d'euros? Comment on se fait connaître? Qu'est-ce qu'on pousse? Quels sont vos leviers de croissance aujourd'hui pour exister demain? Pas uniquement dans 3 rues de Paris, mais dans tout Paris et d'être connu par un Parisien sur deux.
Donc justement, en effet, il faut beaucoup de budget pour aller chercher entre guillemets le particulier un à un. C'est une stratégie qu'on peut mettre en place quand on a des startups américaines qui ont levé jusqu'à 80 millions d'euros sur ce secteur-là.
Dans votre secteur ?
Sur notre secteur, exactement. Donc nous, on va se faire tracter dans un premier temps aussi beaucoup par les entreprises. Pourquoi ? Une entreprise qui souscrit à notre solution pour ses collaborateurs ou pour ses visiteurs, eux-mêmes vont aussi s'en servir et ses clients vont connaître Pop Valley puisqu'on on opère directement en jaune. Et ensuite, eux peuvent s'en servir aussi pour leur service. Donc c'est comme ça qu'on va évangéliser et se faire connaître beaucoup plus vite que d'aller faire de la communication un à un, même si on en fait forcément via les réseaux sociaux, via les ads, etc.
Alors je ne sais pas si vous l'avez dit et je dormais à ce moment-là, mais Mais est-ce que finalement, le valet, qui est une personne qui n'est pas seulement appliquée à connaître les voitures, mais à rendre des services, est-ce qu'il pourrait presque se connecter au métier de la conciergerie et rendre d'autres services, faire des menus courts?
C'est toujours le coup d'après, quoi, l'idée du coup d'après.
Ouais, mais c'est ce qu'on utiliser, en fait. Mettre de la valeur ajoutée, même dans le job lui-même, je pense.
Ben, c'est exactement ça, en fait. À partir du moment où on a la voiture, et ça va être très d'actualité, à partir du moment où on a la voiture d'un client, on fait déjà en interne le lavage du véhicule et le plein du véhicule. Aujourd'hui, on a lancé une...
C'est intéressant, le plein, là, en ce moment.
On
a lancé un push récemment, parce qu'on sait qu'on a la pénurie d'essence en ce moment, on a lancé un push aux clients. Il y a des clients qui, même sans stationner, nous ont confié leur véhicule pour qu'on aille faire le plein pour eux, parce qu'on a à peu près, en ce moment, 45 minutes de queue à la pompe. Donc, évidemment, notre idée, c'est d'internaliser avec le temps le plus de services possible. Donc, le lavage et le plein, la révision, le changement de pneus, de phares, etc.
Mais vous nous dites que vous avez des adresses de pompes qui sont mieux
Exactement.
C'est le concierge, ça, qui a toujours des bons plans.
Exactement, je peux vous dire que celle du boulevard Haussmann est bien approvisionnée en ce moment. On en a une avenue Paul Doumer aussi, qui reste tout type d'essence.
Et ben,
vous
on êtes apprend allé qu'il voir... est généreux, ouais. puisqu'il partage ses bons plans.
Avec plaisir.
La nouvelle économie, c'est bien. Vous êtes allé voir des constructeurs automobiles, parce qu'on sait que c'est un des enjeux de la relation qu'ils entretenaient avec leurs clients, c'est aller jusqu'au bout. Vous êtes allé voir ces leviers de croissance pour votre activité?
Oui, on a rencontré des constructeurs automobiles. L'idée, ça va être à terme, directement depuis le véhicule, de pouvoir commander son voiturier. Donc, au lieu de passer par une application mobile et le téléphone, on passerait directement par le tableau de bord.
Là là.
Et ça, c'est un levier de croissance qu'on va pouvoir proposer à terme.
Alors, cette semaine, le match oppose Pop Valley à Digifood. On vient de vous entendre à l'instant, Alexandre Poisson, Ronald Gautry. Je vous rappelle qu'on a déjà 4 qualifiés sur 5. On en aura un cinquième aujourd'hui. Le premier, c'était Tilki, le logiciel tracker pour les commerciaux. A suivi Bedaviz, le téléconseil médical. 100% de réponse, 24 jours sur 24, 7 jours sur 7, par des professionnels de santé. On a également Julie Desque, c'est cette Julie qui s'occupe de vos rendez-vous, mais qui est une intelligence artificielle, avec tout de même la présence d'un humain derrière. Et puis Loisirs Enchères, le e-commerce des vacances aux enchères, enfin des loisirs aux enchères. La semaine prochaine, on passe dans la deuxième phase de la saison 11 de la BFM Academy. On appelle ça globalement les demi-finales. Bon, c'est une espèce de nom un peu générique. Avant la finale en public du 20 juin, de quoi s'agit-il, Eve Chégar?
Alors, on change de dimension et on adore les renouvellements de la BFM Academy. Chaque saison, on a des petites nouveautés. Vous savez qu'on a passé presque 24 heures avec chacun des demi-finalistes.
Voilà. Mais des qualifiés, on va dire.
Ce sera le cas pour l'un des deux aujourd'hui. Et on a tiré des enseignements entre investigation et coaching, accompagnement, conseil. Et à l'issue de chacune de ces séries de 24 heures, on envoie vers un des autres coachs pour compléter et aider et faire passer peut-être un cap à la start-up. C'est ça qu'on va découvrir la semaine prochaine.
Alors, la première partie de cette demi-finale, on aura 5 candidats, 5 coachings, on va dire. Mmh. Il y aura une autre partie dans cette demi-finale où on aura 5 candidats, 5 mouches du coach. Puis là, il en restera 3 à l'arrivée. On les retrouvera en finale, mais là, on aura le temps d'en reparler. Bon, il nous reste un peu moins de 2 minutes. On va refermer cette émission avec le moment le plus douloureux, on va dire. On appelle ça le terrible choix, et c'est celui d'Eve Chégaray.
BFM Academy, le choix du coach.
Eve Chégaray, 1 minute 17 pour nous dire qui vous choisissez entre Pop Valley et Digifood. Pop Valley, d'ailleurs.
Alors, je crois qu'à la seconde où je parle, je suis encore en train d'hésiter. C'est un vrai ex-aequo, c'est un truc de dingue. Des nouveaux usages, de vrais services, des emplois plus ou moins fixes, etc. Mais beaucoup de sens dans tout ça. Un côté sympa, le marketing dans tout ce qu'il a de mieux pour donner vraiment quelque chose de qualité. Je suis pas du tout dans le monde du sport, donc j'ai vraiment découvert Digifood un petit peu de l'extérieur, mais ça m'a semblé hyper sensible. J'ai des besoins de voiturier, donc Pop Valley, ça m'a semblé une évidence. Donc, qu'est-ce qui me reste comme critère? Il me reste comme critère de me dire qu'est-ce qui est le plus BFM Business, finalement. Qu'est-ce qui plairait aux clients de David Amsalem avec John Paul? Qu'est-ce qui ferait une meilleure campagne de pub sur BFM Business? Les valets de Pop Valley, ça me paraît évident. Mais je pense que dans l'audience de BFM Business, il y a aussi des fans de sport, et puis on a compris que ça irait dans les salles de concert. Donc là, je me retranche sur les critères du stade de développement. Vous avez tous les deux besoin de lever des fonds, d'exploser vos boîtes, et pourtant, je crois que le plus grand bénéfice, ce sera pour Digifood. Donc je prends Digifood.
Merci beaucoup.
Bravo.
Il a fallu. Effectivement, ça sent un peu les ex-échos quand même, ça. C'était difficile. Bon, en tout cas, félicitations à vous deux. Digifood, donc, il va rejoindre les quatre autres entrepreneurs dont je vous ai parlé. On se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième phase de cette saison 11. On appelle ça les demi-finales. Ça se passera en deux parties. Et la troisième partie, ce sera la grande finale en public. Et là, vous participerez au vote final. Ce sera évidemment au studio Gabriel, comme tous les ans. À la semaine prochaine.
BFM Academy, saison 11, le 20 juin. Il n'en restera qu'un.